C'est ludique, 9h30, 10h.
Bienvenue dans C'est ludique, les amis. C'est le retour de l'émission après eh bien, ces petites vacances, ces vacances tempêtes, j'ai envie de dire. Je vais vous parler de Banzai. Dans quelques instants, on retrouvera Ludo en fin d'émission pour nous donner toutes les news ludiques. Et pour commencer, c'est le coup de cœur de Théo Rivière. Salut Théo.
Salut, comment tu vas?
Bah, ça va bien et toi?
Écoute, plutôt très bien, je suis content d'être là et je suis content de parler d'un jeu auquel tu n'as pas joué pour une fois.
C'est ça, exactement.
C'est pas souvent.
C'est pas souvent, effectivement, c'est pas souvent. Alors tu vas nous parler de Critical.
Ouais, tout à fait, Critical qui est un jeu assez particulier puisqu'on est vraiment à mi-chemin entre du jeu de rôle et du jeu de société.
Ouais.
C'est édité par Gigamic, c'est un jeu de Johan Lemonnier et Christophe Balla. Et déjà, premier truc un peu bizarre, j'ai deux illustrateurs accrédités, puisqu'il y a une première boîte qui est illustrée par Pascal Kido et une deuxième boîte qui est illustrée par Vincent Dutré. Donc je spoil déjà, Critical, c'est un jeu sur lequel il y a deux boîtes différentes.
D'accord, ok. Donc c'est... pourquoi deux boîtes différentes?
Pourquoi est-ce que deux boîtes? Tout à fait, très bonne question. Il y a deux boîtes parce que Critical, c'est un jeu qui va se jouer en différents épisodes. Et Gigamic, avec les auteurs, ont choisi de proposer deux univers différents qui sont arrivés coup sur coup. Donc on a Critical Foundation, qui est la toute première boîte à être sortie, qui est dans un univers plutôt science-fiction.
D'accord.
Et on a une deuxième boîte qui s'appelle Critical Sanctuaire, cette fois-ci, qui est dans un univers d'heroic fantasy, avec des petits twists. On est à chaque fois sur des univers assez classiques, mais je vais y revenir, c'est assez important et c'est assez bien fait. Il n'y a pas de très très grand twist d'univers. Vous ne serez pas dépaysé si vous aimez bien l'heroic fantasy ou si vous aimez bien la science-fiction.
D'accord.
Mais c'est plutôt un bon point qu'un mauvais point, puisque Critical se propose, et je vais y revenir, autrement ça ne serait pas dans mon coup de cœur, tu t'en doutes, mais plutôt avec brio, d'être une initiation au jeu de rôle. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que c'est bien d'avoir choisi des univers plutôt faciles d'accès, plutôt un peu bonbons, dans lesquels on peut rentrer très facilement, parce que ça évite d'avoir à apprendre un monde en plus d'apprendre un système de jeu.
Tu fais du jeu de rôle, toi, Théo ?
J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait à une époque. J'ai découvert ça au lycée et ça a occupé une grande partie de ma vie. Là, j'ai plus de table régulière. C'est toujours un peu le défaut du jeu de rôle. C'est un peu comme les jeux en campagne. Il faut réussir à avoir une table avec laquelle on se retrouve suffisamment régulièrement pour pouvoir jouer avec le même groupe.
Ouais.
Là, c'est plus mon cas, mais pendant un temps, on a eu une très belle table de Donjons et Dragons qui a duré vraiment un bon paquet d'années.
D'accord.
Dans lequel on a réussi à se retrouver régulièrement pour jouer. Donc, c'est plutôt un médium que j'aime beaucoup.
Très bien. Donc là, ça mélange le jeu de société et le jeu de rôle.
Ouais, tout à fait. On est quand même plutôt du côté jeu de rôle que du côté jeu de société.
D'accord.
Mais avec plein de matériel. Ce qui est un des trucs vraiment très chouettes chez Critical, c'est que quand on ouvre la boîte, dedans, il y a plein de matos. Il y a un petit écran, il y a évidemment des scénarios pour qu'on puisse jouer, mais il y a aussi des petits standees sur lesquels on peut écrire le nom de nos personnages pour que ça soit plus visible. Mmh. Il y a les dés pour le système de jeu, il y a plein de jetons, il y a plein de petites fiches qui permettent de se représenter les différents personnages non-joueurs. Ce qui est toujours un petit défi dans le jeu de rôle. Des fois, on rencontre des personnages, on sait pas trop qui c'est, on sait pas trop à quoi ils ressemblent. Et même si on a un bon descriptif de notre meneur ou notre meneuse, des fois c'est difficile de se projeter.
Ouais.
Là, la plupart du temps, on a une petite aide pour pouvoir bien voir à quoi ressemble ce perso.
D'accord.
Ce qui est toujours très sympa.
Et alors, derrière, comment ça se passe? Tu choisis ton personnage au début?
Ouais, tout à fait. On a le choix entre plusieurs archétypes de perso, avec à chaque fois un petit background, ce qui permet de lui donner un peu de corps.
Ouais.
Et en même temps, on reste dans du jeu de rôle. Typiquement, moi, je suis sur une campagne de sanctuaire qu'on fait en ligne en ce moment,
ouais.
Sur Twitch. Et tu vois, mon perso qui est un roublard, j'aurais pu le faire partir dans plein de directions. Moi, c'est plutôt un loser assez pédant, mais avec un grand cœur. Mais j'aurais pu l'amener dans plein de directions différentes.
D'accord.
Ce qui est un peu le propre du jeu de rôle. Hein. On peut s'approprier les personnages et les amener un peu où on veut. Mais là, c'est vraiment très, très facile. C'est-à-dire que si on n'a pas trop envie de faire du roleplay, si on n'est pas trop à l'aise, on peut se laisser porter par le système de jeu. Et en même temps, si on a envie d'aller un peu plus en profondeur, c'est tout à fait possible aussi.
Ok.
Néanmoins, la grande force de Critical, elle n'est pas là, puisque je trouve que des jeux qui proposent une immersion assez facile pour les joueurs et les joueuses et qui permet de jouer rapidement à du jeu de rôle, il y en a plusieurs et il y a plein de choses vraiment très bien faites aujourd'hui sur le marché du jeu de société. Là où Critical, je trouve, arrive à amener un truc qui est vraiment brillant, c'est qu'on a quand même un meneur ou une meneuse de jeu, donc quelqu'un qui va, le MJ, qui va avoir ce rôle un peu important de raconter l'histoire, de résoudre les situations, d'accompagner les joueurs et les joueuses. Et ce rôle-là, il est souvent plus compliqué que les autres. Ça demande plus de préparation, ça demande de bien connaître le jeu sur le bout des doigts. On est un peu le garant ou la garante des règles, on doit être à point que l'univers, tout se passe bien. Et ça, c'est un truc qui peut faire un peu peur et qui est un peu difficile. Ouais. Moi, je sais que quand je me suis lancé dans le jeu de rôle, j'ai assumé ce rôle un peu par défaut parce que j'étais le seul autour de mes copains et copines à vouloir le faire. Et clairement, au début, ça me terrifiait un peu de savoir comment bien préparer une partie et être à l'aise. La Critical, c'est un truc que peu de jeux fait, ou du moins peu de jeux font, et peu de jeux font avec autant de succès, je trouve, c'est que c'est extrêmement facile à prendre en main aussi pour le meneur ou la meneuse.
D'accord.
Ça demande pas beaucoup de temps, il y a effectivement tous ces documents-là, le système de jeu, donc comment est-ce qu'on résout les réussites et les échecs, est vraiment très très simple aussi, tout a été vraiment épuré au maximum, et ça permet d'avoir quelque chose qui est très agréable à ce niveau-là aussi.
Très bien. Donc ça s'appelle Critical, c'est disponible chez Gigamic, il y a deux boîtes, hein. Donc une version Sanctuaire et une version plus science-fiction.
Ouais, tout à fait, c'est exactement ça, et ce sont deux boîtes qui sont labellisées saison 1, à juste titre, hein, parce que ça reprend pas mal les codes de la série, c'est découpé en différents épisodes, 9 ouais. pour chacune des boîtes. Ces épisodes, ils annoncent 30 minutes, avec des gens qui ont un peu de bagou et qui ont un peu envie de tapoter, on est plutôt proche des 45 minutes, 1 heure, mais je pense que ça peut tenir en 30 minutes si on a un planning un peu tight. Et là où ça reprend bien la série, c'est qu'il y a souvent des cliffhangers, on finit un épisode, on est un peu genre... Dites-moi ouais. la semaine prochaine qu'on rejoue parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Là, il y a trop de mystères.
Ouais. Très bien, merci beaucoup Théo et à lundi Donc prochain. Si.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Le mot bonsaï est un mot japonais signifiant arbre cultivé en pot. Alors les bonsaïs hein, sont en effet hein, des arbres cultivés dans un très petit contenant, miniaturisés à l'extrême hein, grâce à des tailles successives des branches et des racines. Alors il s'agit d'une technique ancestrale née en Chine, largement adoptée par la suite au Japon et plus récemment introduite en Europe. Les bonsaïs japonais sont de véritables œuvres d'art vivantes et cette œuvre d'art, je vous propose de la reproduire sur votre table en essayant de faire le plus beau Banzai. Voici donc Banzai, le jeu de Martino Ciacchiera, Massimo Borza, Rosario Battiato que nous propose en France Gigamic. Alors dans Banzai, les joueurs jouent le rôle d'experts Banzai, maîtres désireux de développer leur propre Banzai. Le joueur qui cultive la meilleure plante sera désigné pour montrer son Banzai au jardin impérial. Votre Banzai sera créé grâce à des tuiles bois, feuilles, fleurs et fruits. Au niveau de la mise en place, chaque joueur reçoit un pot à sa couleur ainsi qu'une tuile séchie, c'est la mise en forme du Banzai. Vous avez également des tuiles Banzai de départ en fonction de votre position. Le premier joueur aura une tuile bois, le deuxième une bois plus une feuille et ainsi de suite. Le plateau principal est posé sur la table et 4 cartes du deck Zen sont placées sur les espaces. Enfin, des tuiles objectifs sont disposées au-dessus. Alors à votre tour, vous allez choisir de faire l'une des deux actions du jeu, à savoir méditer ou cultiver. Si vous méditez, vous choisissez l'une des cartes sur le plateau et vous prenez également toutes les tuiles bonsaï représentées sous la carte que vous piochez. Ensuite, comme dans une rivière de cartes, on va faire glisser les cartes vers la droite et on posera une nouvelle carte. La carte que vous avez récupérée, vous la placez à droite de votre tuile séchie s'il s'agit d'une carte croissance et à gauche s'il s'agit d'une carte outil. Il y a aussi les cartes apprenti et maître, on va y revenir. Alors les cartes croissance vous permettent de placer des tuiles bonsaï lorsque vous cultivez. Les cartes outils vous permettent d'augmenter votre capacité pour accepter un plus de tuiles bonsaï. Au début, vous ne pouvez en stocker que 5. C'est un peu votre réserve. Alors il y a aussi, donc je vous ai dit, les cartes apprenti et les cartes maître. Dans ce cas, vous appliquez leur effet concernant les cartes parchemin, elle vous donne des bonus en fin de partie. La deuxième action possible dans Banzai est de cultiver. Vous pouvez placer les tuiles qui se trouvent dans votre réserve personnelle dans votre Banzai en croissance. Vous pouvez placer autant de tuiles que le nombre total de symboles représentés sur votre tuile séchie. Alors au début, vous ne pourrez en poser que 3. Et au fur et à mesure de la partie, vous pourrez récupérer d'autres cartes croissance et en poser bien sûr plus. Alors chaque symbole vous permettra de placer une tuile du type correspondant. J'ai 3 symboles sur ma carte séchie et 2 sur mes cartes croissance. En faisant l'action cultiver, je peux donc poser 5 tuiles pour compléter mon Banzai. En respectant les symboles bois, feuilles, fleurs et fruits. Mais il y a quand même quelques contraintes. Les tuiles en bois marron doivent être adjacentes à d'autres tuiles en bois. C'est pour faire le tronc du Banzai. Les tuiles feuilles vertes doivent être adjacentes à un bois. Les tuiles fleurs doivent être adjacentes à une feuille. Et un fruit jaune doit être placé entre deux feuilles adjacentes. Alors si pendant votre tour vous réalisez l'un des objectifs, vous le prenez. Par exemple votre Banzai à 5 feuilles qui se touchent, ça vous rapportera des points en fin de partie. Et surtout, les autres ne peuvent plus prendre 7 tuiles. La partie s'arrête dès que la dernière carte de la pioche zen est révélée. Ensuite, on va compter les points de son banzai. Le bois ne vous rapporte rien. Les feuilles, c'est 3 points par tuile. Pour les fleurs, c'est 1 point pour chaque côté qui ne touche aucune autre tuile. J'ai oublié de le préciser, mais les tuiles sont des hexagones. Du coup, il est possible d'avoir jusqu'à 5 points. Et enfin, les fruits vous font gagner 7 points. N'oubliez pas non plus d'ajouter les bonus de vos parchemins et tuiles objectifs. Il existe aussi un mode solo, je vous laisserai découvrir. Banzai est un jeu de tuiles de construction légère, plus simple que Cascadia par exemple ou Calico. Facile à appréhender, c'est relaxant et agréable de voir son Banzai naître dans le pot et grandir. Et de voir la forme aussi qu'il va prendre, vous allez voir, vous n'aurez pas tous les mêmes formes. Il y a aussi une course aux tuiles objectifs. Oui, il y aura un petit peu de tension dans cet univers zen. L'illustration du jeu est magnifique et reste dans cet univers japonais. Alors si vous décidez d'acquérir un Banzai d'intérieur, eh bien, certaines caractéristiques peuvent guider votre choix. Prêtez d'abord attention à la facilité d'entretien et à la vitesse de croissance de l'arbre. Ensuite, à vous de voir si vous souhaitez un beau feuillage brillant ou si vous laissez charmer par un petit arbre fleuri. Une chose est sûre, en fin de raid, eh bien, vous pourrez découvrir les principaux types de bonsaï. N'oubliez pas, votre bonsaï d'intérieur a besoin de sortir un petit peu de temps en temps quand même. Une chose est sûre, le jeu, lui, sortira. Un jeu qui a marqué SN cette année et qui est déjà arrivé en France.
C'est ludique, des jeux et des hits. C'est ludique, 9h30-10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio.
Et tous les lundis dans C'est ludique, on retrouve Ludo pour les news de la semaine. Salut Ludo.
Salut à tous et à toutes.
Alors aujourd'hui Ludo, il y a plein de news, j'ai envie de dire comme d'habitude.
Oui exactement, il y a trois qu'on a sélectionnées. Alors la première, donc ils ont fait les États-Unis, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, la Suisse, même l'Inde.
Ouais.
Il y a eu du compétitif, du collaboratif, du par équipe, des spéciales anniversaires, même des wagons roses,
ouais.
des rapides à jouer, versions pour les enfants. Ça te fait penser à quoi ?
Les aventuriers du rail.
Les aventuriers du rail, effectivement. Et là, ça nous arrive en mode conquête de l'Ouest,
ouais.
Et surtout en mode legacy.
C'est ça.
Alors voilà, les aventuriers du rail, c'est chez donc Days of Wonder. Et ça revient dans une très grosse boîte. Ça se situe maintenant au 19e siècle aux USA.
Mm-hmm.
Et puis, dans les aventuriers du rail, légende de l'Ouest, chaque joueur incarne le président d'une compagnie ferroviaire. Et qu'est-ce qui va se passer ?
Eh bien, il va falloir être celui qui gagne le plus d'argent possible.
Ouais, et puis surtout, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va, modifier les règles vont être modifiées.
Ouais.
Il va y avoir, on va devoir prospérer donc partie après partie. Et puis, dans cette version-là, donc le Legacy, ça veut dire qu'il y aura 12 parties qui vont faire une campagne et on va faire des modifications permanentes à l'exemplaire.
Oui,
de jeu.
C'est ça.
Donc on va ajouter des nouvelles règles, du nouveau matériel, on va agrandir le plateau.
On va détruire du matériel.
Ouais, je sais pas, il y a de la destruction.
Il y a de la destruction.
Tu m'en apprends.
Il y a de la destruction, il y a du collage. Bref, on peut pas tout dire encore, j'en parlerai prochainement des aventuriers du rail, Legacy. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses.
C'est compétitif,
ouais.
Du coup. Parfois, il y a des moments où on va effectivement céder un petit peu, mais la plupart des nouveaux éléments seront donc tous cachés en début de campagne. Et puis, les nouvelles règles vont rester. Mmh. Elles seront ajoutées, différents paquets, le plateau sera étendu, etc. Donc,
il y a plein
moi,
de surprises.
Moi, j'ai précommandé mon exemplaire que j'ai reçu ce week-end.
Ah, donc tu n'as pas commencé encore ?
Ah bah non, pas encore.
Ah
hein.
Oui.
On est en train de finir avec mon groupe encore quelque chose. Donc du coup, on n'a pas encore commencé, mais on va s'y atteler le plus rapidement possible. Voilà, courant décembre ou début janvier, tout début d'année pour fêter cette nouvelle année, peut-être ça va.
Ah.
On va démarrer cette campagne.
En tout cas, il y a plein de surprises dans les aventures du rail. On en parlera prochainement dans ces vidéos, bien sûr.
Voilà,
je
et c'est une grosse boîte.
Rien,
hein,
oui. Ça ne rentre pas dans un calage, ça, hein, je peux
elle
déjà vous
lourde.
Le dire.
Elle est lourde.
C'est lourd, ça ne rentre pas dans un calage,
bon,
bref.
On sort des États-Unis, Matt, je pense que ça t'arrive d'avoir la tête dans les nuages ou de sentir un peu le ventre des deux oreilles.
Ah, le vent, je peux te dire qu'on l'a senti, là, ces derniers jours.
Ouais. Bon, et ben on va parler de Celestia.
Ouais.
Enfin, pas tout à fait de Celestia. Alors, Celestia, je rappelle un peu, c'était un jeu collaboratif, c'est-à-dire... On joue ensemble, on s'entraide, mais à la fin, il n'y en a qu'un seul qui gagne.
C'est ça.
Ça se jouait dans des aéronefs avec un matériel vraiment superbe, déjà en plus pour l'époque. Et puis on va interpréter un capitaine, on va jouer des cartes, et puis on va bluffer, on va essayer de se tirer la couverture à nous à chaque partie, à chaque manche. Et donc le gagnant aurait été celui qui a été le plus convaincant et le plus roublard. Alors il y a eu une extension, il y a eu un tapis de jeu pour encore agrémenter ce matériel-là.
C'est un classique, Célestia.
Ouais, tout à fait. C'était vraiment très très sympa. Et là, Blam, qui est l'éditeur, nous indique deux bonnes nouvelles. Déjà, la version Celestia Duo,
ouais.
Une version deux joueurs par Bruno Catala. Quelle surprise.
Deux joueurs, forcément, c'est Bruno
Catala. Qui sera pour le coup une version coopérative. On devra unir ses forces pour sauver le monde de Celestia d'une terrible menace. On n'en sait pas plus sur la menace. Et puis, Celestia version enfant. Et là, excusez du peu, ils ont fait appel à Wilfried et Marie Ford.
C'est bizarre, dis donc.
Des spécialistes encore du jeu pour enfants. Et là, ça va être imaginé un peu comme mon premier Celestia, pour permettre aux plus jeunes de se familiariser avec la prise de risque. Et puis avec apparemment une nouvelle utilisation ingénieuse des dés et de l'aéronef. Donc à venir chez Blam, on ne sait pas quand.
Blam a vraiment pris les meilleurs dans chaque catégorie.
Exactement, on va pas se... En plus, c'est français.
Mais c'est ça.
Alors, tu vois, on va pas se gâcher le plaisir.
Autre chose, Ludo.
Une dernière news, financement participatif. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Acrylogique, qui va débarquer sur Kickstarter le 14 novembre 2023. Pourquoi j'en parle ? Parce que cette campagne et ce jeu vont être un peu différents. C'est un jeu de Léandre Proust. Et donc, c'est un jeu de logique et de déduction sur le thème de la peinture. Donc Léon Proust en est l'auteur et l'éditeur. Il vous suffira seulement d'un stylo et d'un cerveau pour y jouer. Bon, moi, j'ai sur le stylo déjà. On verra pour le reste. C'est inspiré du Sudoku. Le but du jeu consiste à résoudre des puzzles sous la forme de grilles 3x3 ou 4x4.
D'accord.
Il y a de la couleur. Alors pour nos amis qui ont des soucis daltoniens, qui ont des soucis avec les couleurs, il y aura le nom des couleurs en texte dessus. Sinon, c'est vraiment quelque chose sans texte, sans rien. Les règles seront disponibles en 19 langues.
D'accord.
Pourquoi c'est particulier ? Bon, déjà, c'est arrivé dans sa tête à l'été 2022 et c'est arrivé dans le Philimag, qui est
le magazine
distribué par Philibert, en septembre 2022. Et en fait, c'est assez atypique parce que le jeu, donc pendant la campagne Kickstarter, sera sous forme de deux magazines de 24 pages, avec chacun 36 grilles de 3x3 et 18 grilles de 4x4, donc il y a de quoi faire, il sera gratuit. Il y aura juste les 2 euros de frais de port. Il nous avait déjà fait le coup avec Clash of Deck, un petit jeu de cartes.
J'ai envie de me dire, mais comment il gagne sa vie ?
C'était le même auteur. Et ça avait vachement marché. L'intérêt, c'est de faire connaître le jeu dans le monde entier. Donc, pour 2 euros, vous aurez le jeu qui vous sera livré chez vous. Et ensuite, si ça marche, s'ils atteignent le nombre qu'il faut pour pouvoir imprimer tout ça, ils pourront débloquer après dans d'autres campagnes ou en boutique des éléments payants pour faire vivre ce jeu, de nouvelles grilles, etc. Donc, moi je donne le rendez-vous à tout le monde le 14 novembre 2023 parce que c'est un petit jeu intelligent,
malin.
Et puis on est dans le jeu des logiques là en ce moment là.
Ah bah oui.
Ça fait un an là qu'on en sort de partout, des jeux un peu d'énigmes et de logique. Donc il faut pas rater ça. Voilà. Moi je pense que c'est intéressant et c'est bien de continuer. Et s'il le fait encore maintenant, c'est que Clash of Deck, sa formule avait marché.
Ah, il a même un magasin, Léandre, du côté de Laval.
Exactement. Ouais, j'allais finir là-dessus, il a ouvert un magasin. Ça prouve bien que le financement participatif, c'est aussi la possibilité de faire des formats et des campagnes complètement différentes avec un peu d'imagination et de culot et de toupet.
Merci beaucoup, Ludo. Et quand on parle de déduction, l'un des spécialistes, Johan Levet, sera mon invité demain. Alors, pas pour un jeu de déduction. Le spécialiste, bien sûr. Et il sera là demain pour pas parler d'un jeu de déduction, pour une fois, mais pour parler de Humanity.
Ça lui arrive parfois de sortir des sentiers battus.
C'est ça.
Vraiment un très, très bon jeu sur le thème de la colonisation
de Titan
spatial et ouais
de le satellite de Jupiter ou Saturne.
C'est Saturne.
Ouais,
okay.
C'est Saturne. Merci beaucoup Ludo et à lundi prochain.
C'est ça, bonne semaine à tous et à tous, à lundi.
Salut.
Salut.